Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Arrivé mercredi 15 avril dans la soirée en provenance du Congo central, des denrées agroalimentaires de première nécessité achetées dans le cadre du programme alimentaire d'urgence de la présidence de la République. La collecte et l'acheminement de ces vivres a été assuré par la Congolaise des développements industriels et des distributions, CODIDIS, une plateforme qui réunit des producteurs agricoles congolais afin de faire face à la rareté et à la flambée des prix des produits des premières nécessités en cette période de Covid-19. Certains observateurs estiment que pour faire face à de telles situations dans les jours à venir, il faut encourager la production agricole et la consommation des produits locaux. Qu'en pensez-vous? 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mais vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Tatima Poukoua sur la réalisation de ce magazine, mise en onde par Sylvain Baogueré et Pierrot Elamegi. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Avec le déclenchement de la pandémie de coronavirus et surtout les mesures prises par le chef de l'État pour stopper la propagation de cette maladie, avec l'état d'urgence, la fermeture des frontières, le confinement de la commune de la Gombe ainsi que la mise en quarantaine de la ville-province de Kinshasa ont provoqué l'arrêté de certains produits sur les marchés, les produits de première nécessité, et ce qui a aussi entraîné la flambée des prix. Alors, la prise a déboursé l'argent pour acheter des produits vivriers dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, pour pouvoir inonder le marché de Kinshasa. Et ceci relance les débats sur la problématique de la production agricole locale, même aussi la fabrication de certains produits de première nécessité sur place. Comment y arriver si jamais on a des telles situations qui, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question au centre de notre échange. Et nous avons associé à cet échange, professeur Fidèle Lumeya, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'agribusiness, si on peut dire ainsi, professeur d'université. Alors, on se rend compte qu'on a beaucoup de limites aujourd'hui. Parce que on peut dire même que plus de 80% de ce qui est consommé en RDC est importé. Et aujourd'hui, la situation de la pandémie de coronavirus fait voir les limites que nous avons en ce qui concerne l'approvisionnement. Mais alors, avant d'aller aux mesures, si on peut d'abord tracer notre tableau, comment en est-on arrivé là à être si dépendant que tout ce que nous avons besoin, tous les produits de première nécessité puissent venir d'ailleurs?
Le premier problème que nous avons au pays est qu'il y a beaucoup de slogans. C'est un pays qui aime bien des slogans et on n'est pas proactif. C'est-à-dire que depuis la période de Mobutu, l'agriculture priorité des priorités était devenue un slogan. 35 ans de règne de Mobutu, nous avons entendu cela. Mais en réalité, on n'a pas vu ce slogan se transformer en action. C'est-à-dire l'agriculture priorité des priorités n'était bon que pour une consommation extérieure. La preuve est que nous avons eu Daipen, le domaine de Nsele, qui aujourd'hui, quand vous passez par là, c'est comme s'il y avait une guerre où on a bombardé. Quand vous vous promenez dans des pays africains où il y a eu des guerres, Nsele est l'émanation de ces slogans. Et maintenant, nous sommes en train d'ajouter encore les parcs industriels. Ce sont encore des slogans. Aussi longtemps que nous ne mettons pas du budget consistant à ces slogans-là, ça reste des mots vagues, personne n'y croit.
Alors,
donc, pour me résumer, excusez Pierrot, pour me résumer, il y a deux problèmes. C'est bien beau de dire agriculture priorité des priorités, mais c'est mieux de mettre le budget conséquent pour que l'agriculture devienne priorité des priorités. Traduire les mots en action.
Traduire les mots en action, il faut mettre un budget conséquent, professeur, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il y a un problème d'expertise? Est-ce qu'il y a aussi un problème de compétences? Est-ce qu'il y a un problème aussi de volonté réelle affichée? Ou y a-t-il un problème aussi d'intérêt par le fait qu'on puisse laisser le pays entre les mains de l'importation de tous ces produits de première nécessité?
Non, une fois encore, si vous demandez, parce que en tant que curieux, puis je suis dans l'agribusiness, sur papier, le pays a tout ce qu'il faut. Expertise, nous avons l'INERA. Expertise, nous avons le Service national des semences. Expertise, nous avons l'Union de... Tout est là, toutes les structures sont là. Mais y a-t-il de l'argent dans ces structures-là? En tant qu'investisseur et entrepreneur dans l'agribusiness, je suis à Kikwit avec plus de 4000 hectares de terre. Nous sommes en train de produire. Les premières récoltes, on n'a pas d'acheteurs. L'argent n'est pas loin. Il y a un organisme qui est sur place là-bas, qui est venu pour aider les fermiers que nous sommes. Mais tout est administratif. Tout est papier. C'est ça le grand problème. Nous faisons face à beaucoup trop d'administrations, alors que c'est plus simple. Il y a d'un côté 288 membres de l'Union de producteurs de Kikwit, et de l'autre côté, il y a l'argent qui s'assoit là-bas, mais entre les deux, on ne se parle pas. On ne sait pas ce qui se passe, pourquoi l'argent ne tombe pas dans nos mains. Nous avons beaucoup de nourriture qui traîne à Kikwit jusqu'à présent, le maïs qu'on a planté autrefois, qui n'arrive pas à Kinshasa et qui ne bouge même pas de Kikwit, parce que quelque part, quelqu'un doit décider à débloquer ces fonds qui traînent là-bas. Donc c'est ça la situation dans tous les pays. Il y a des organismes internationaux qui viennent avec beaucoup trop de discours pour le développement, mais qu'est-ce qu'ils mettent en main? Tout se termine dans les enquêtes, dans les recherches, dans l'administration, mais sur place, entre les mains des fermiers, il n'y a rien qui tombe.
Il n'y a rien qui tombe, voilà. Et ça, c'est un problème, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à cette pénurie. Il a fallu que la pandémie se déclenche, que Kinshasa soit mise en quarantaine, qu'on se rende compte exactement de ces limites que nous avons. Mais alors, il y a d'abord la responsabilité politique, c'est la définition de la stratégie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui accèdent aux postes de responsabilité sur le plan politique ont d'abord eux-mêmes un problème de vision, un problème de stratégie dans cette question du développement du secteur agricole qui a toujours été déclaré? On peut le dire, mais est-ce qu'on a la stratégie, est-ce qu'on a une vision politique sur cette question de l'agriculture, quand bien même on peut déclarer que c'est une priorité des priorités?
Oui et non, Pierrot. Quand vous regardez encore, faites une étude, qui sont nos ministres? Ce sont des hommes et des femmes très qualifiés. Depuis la période de Mobutu, nous n'avons jamais eu un ministre qui n'a pas étudié et qui n'est pas du secteur. On a toujours mis des ministres, comme on le dit en leadership, l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nos ministres sont qualifiés et ils ont dans chaque ministère des bureaux d'études, des projets. Et dans chaque ministère, c'est bien structuré. Mais une fois encore, nous tombons dans cette léthargie où il n'y a pas de suivi et des évaluations qui se font. Je suis dans l'agribusiness. Dans mon business, il y a un département de suivi et évaluation. Là, nous sommes en train de faire des rapports. Il y aura une équipe qui va aller évaluer ce que nous avons fait par rapport à nos objectifs. Il y aura un audit extérieur qui va le faire. Donc, tout le monde est conscient de cela. Tout le monde sait qu'il y a cette question de redevabilité. Maintenant, au niveau des ministères, tous ces ministères, je le dis, après avoir étudié nos ministères courants, il n'y a pas de bureau de suivi et évaluation. Si vous n'avez pas de suivi et évaluation, les ONG font mieux parce qu'il y a des équipes de suivi et évaluation. on met beaucoup d'argent dans la planification et peu d'argent dans le suivi et évaluation. Ainsi, s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché, comment vous allez rectifier ces tirs si vous n'avez pas des évaluations, des équipes qui descendent pour évaluer et pour faire des suivis? Donc, ce n'est pas un problème de politique. C'est un problème partout dans les ministères. C'est un problème de suivi et évaluation. Nous n'avons pas de structure pareille. S'il y en a, ils ne sont pas financés.
On va revenir à vous, le temps d'écouter les compatriotes sur cette question de l'encouragement de la production locale ainsi que sa consommation. Christian, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour aux auditeurs.
On vous écoute, Christian.
Merci Pierrot. Moi, je vous dirais que les problèmes de l'État actuel où nous sommes, nous ne vivons que de l'importation, c'est parce que, en fait, les gens se sont beaucoup plus concentrés à ce que beaucoup plus dans les domaines des les gens ont investi dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire ici c'était le lieu où on faisait la mobilisation des recettes, mais l'argent au lieu de l'utiliser, de l'exploiter, mais les gens préféraient beaucoup plus de les garder dans les paradis fiscaux. Et voilà aujourd'hui où nous sommes. Et donc, moi, je crois que pour encourager la production locale, il faut également se rendre compte des consommateurs. D'où il va falloir améliorer les pouvoirs d'achat des consommateurs. Car vous êtes sans savoir que c'est des fils en aiguille que marche la production et la consommation. Et c'est ça même, en fait, là où je dirais même la base de la loi de l'offre et de la demande. Si cela n'est pas vraiment au rendez-vous, donc il n'y a pas cette égalité entre l'offre et la demande, eh bien nous allons tomber automatiquement dans les dérives. Les commerçants qui, lorsqu'il sera dans le marché, est-ce qu'il va voir et qu'il y aura beaucoup de produits sur le marché, mais il y aura peu d'acheteurs, il va tomber dans ce piège, dans ce que nous appelons la détention, la rétention des stocks. Et donc cela constitue en fait le fait pour un commerçant ou un vendeur de conserver les produits en vue de créer la rareté et puis à le vendre plus tard à un prix beaucoup plus cher. Or, si on améliore les pouvoirs d'achat des consommateurs et que de l'autre côté le marché est inondé, vous voyez que les produits vont s'écouler facilement. Mais si on s'en tient seulement à soutenir la production et qu'on inonde le marché, de l'autre côté, les gens n'ont pas de moyens pour acheter, cela ne va pas faciliter les choses. Entre autres, également, je vais aussi ajouter, il y aura concurrence déloyale. Donc, il faut éviter à ce que nous puissions tomber dans ces pièges-là et cela ne va pas nous faciliter les choses, surtout dans cette période des confinements.
Mais Christian, mais quand on regarde la situation actuelle aujourd'hui, si nous partons du fait qu'il y a eu rareté des produits sur le marché avec le déclenchement de la pandémie, cela veut dire qu'on importe plus et on consomme ce qu'on est en train d'importer, ça pose problème. Pensez-vous aujourd'hui que la ville de Kinshasa, si on peut parler de Kinshasa, avec près de entre 13 et 14 millions d'habitants qui sont des consommateurs potentiels, pensez-vous qu'on puisse inonder la ville de Kinshasa avec des produits et Kinshasa ne soit pas en mesure de les consommer, quand bien même, avec le même pouvoir d'achat actuel, les gens ne seront-ils pas en mesure de pouvoir acheter des produits qui peuvent aujourd'hui inonder le marché?
Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que la monnaie, les francs congolais n'a plus sa valeur aujourd'hui. Il y a des évaluations du franc congolais. Et même si aujourd'hui nous avons le même pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qui représente les francs congolais, l'argent, la monnaie locale sur le marché? J'ai aujourd'hui, par exemple, 50 000 francs et que je vais au marché, le marché est inondé, c'est vrai, les produits vont baisser, mais moi qui n'ai que 50 000 francs congolais à la fin de chaque mois, mais qu'est-ce que je vais avoir comme produit? Cela ne va pas vraiment me faciliter la chance de me nourrir les deux bouts du mois. Donc, entre autres, il faut également voir la politique monétaire de notre pays et cela va faciliter les choses. Si aujourd'hui les francs congolais demeurent instables face au dollar, les choses n'iront pas de l'avant. Donc, Pierrot, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent.
Merci beaucoup, Christian. Vous estimez que si aujourd'hui on peut investir pour encourager la production locale et que d'un côté les consommateurs fassent défaut parce qu'il n'y a pas un pouvoir d'achat qui permette à ce que les gens puissent acheter suffisamment, cela va aussi déséquilibrer, n'est-ce pas, le travail des producteurs. Pour vous, il faut un équilibre. Autant on investit pour la production, autant on améliore le pouvoir d'achat des consommateurs pour qu'il y ait un équilibre sur le marché. Merci beaucoup. Nous restons à Kinshasa avec vous, Guylain. Bonjour.
Bonjour, monsieur Perrault.
On vous écoute, Guilain.
Merci beaucoup pour la parole. Déjà, je salue l'intervention de l'ami qui a brossé vraiment sérieusement tout ce que nous vivons ici dans notre pays et particulièrement à Kinshasa. Dans mon message sur la page Facebook de la radio Okapi, j'ai dit que cette maladie, pandémie, virus, a tout à fait montré à nous notre politique agricole et pêche et élevage, la façon dont les autorités de ces pays gèrent ces trois secteurs. Déjà, vous êtes sans ignorer que la ville de Kinshasa ne vit que des petites histoires qui nous viennent des provinces environnantes. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs le courage de tous les agriculteurs à travers nos provinces, ces mamans-là et ces papas-là, qui se battent jour et nuit pour aller au champ pour que au moins la ville de Kinshasa ait ne plus que cette manioc-là que nous consommons, ces pondous-là que nous consommons. Mais au regard de toutes ces choses, nous constatons que l'État n'a pas cette politique-là pour accompagner toutes ces mamans, tous ces papas qui se battent jour et nuit. J'ai eu la chance d'être dans le territoire d'Impanzi, au Bandundu ici. Il y a beaucoup ou des aliments qui peuvent bien nous aider à Kinshasa pour que nous ne puissions pas manquer de quoi manger. Mais il n'y a aucune politique pour ramener toutes ces histoires ici à Kinshasa. Déjà, l'intervenant ou l'invité nous parle de la politique qui ne suit pas réellement le cours des événements par rapport à cette situation. Et il nous parle du budget, le budget qui n'est pas conséquent. Oui, c'est bien. Mais avec le peu de budget que l'agriculture, pêche et élevage a, qu'est-ce qu'ils en font? Nous ne voyons rien. C'est juste les petits maraîchers, les petits agriculteurs et tous les autres là qui s'efforcent à inonder le peu des aliments ici dans la ville de Kinshasa.
Et là, il y a un problème, comme vous l'avez dit, Guilain. C'est-à-dire qu'il y a un effort, il y a des initiatives, l'invité l'a dit, mais il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que ces agriculteurs qui sont, que ce soit dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, que ce soit au Kassai, partout ailleurs, ils sont là, ils ont la possibilité, ils ont des initiatives, mais ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas de moyens. D'ailleurs, vous vous rappellerez avant-hier, quand on a eu l'émission sur la question de la dette, il y a même un auditeur qui a évoqué le protocole de Maputo. On avait demandé aux pays africains d'élever leur budget consacré à l'agriculture jusqu'à 10%. Cela n'est jamais arrivé. C'est ça le problème. Quand bien même ils pourront produire, comment amener ces produits de la zone d'exploitation et de production jusqu'au centre de consommation? C'est un problème qui se pose. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait la volonté et l'accompagnement du pouvoir public. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui appelle de Kinshasa. Ingénieur Gaston, merci d'être avec nous. Bonjour. Ingénieur Gaston, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Ah oui, moi, je loue l'initiative qui vient de la présidence. Je pense que ça va nous aider pour 2-3 jours. Mais on dit en français qu'apprends-moi à pêcher, mais ne donnez pas un poisson. Je pense que l'agriculture, elle est des secteurs privés du chef de l'État. Et tout celui qui peut appeler à ce moment-là Radio Okapi, qui soit de Bandundu, qui soit de Katanga, qui soit de l'Est, il voudrait que dans tous ces villages-là, il y a des produits qui pourrissent, mais qu'on ne sait pas comment les évacuer. Moi, je pense que le chef de l'État a un conseiller qui nous suit, qui suit la Radio Okapi. C'est une occasion pour lui. Et cette pandémie, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas créé par Dieu ou par qui, mais c'est une opportunité pour notre dirigeant à comprendre que même si dans le budget les moyens sont maigres, moi je pense que l'agriculture doit être une priorité dans notre budget. Je ne sais pas, on a attribué qu'on alloue combien au ministère de l'Agriculture et élevage, mais moi je souhaiterais qu'il y ait vraiment un bon montant qui est alloué de ce côté-là et qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes agronomes qui traînent ici, Pierrot, que les présidents peuvent recruter, qui ont fini à l'île, qui n'est parti par là, qui ne travaillent pas. Pourquoi ne pas recruter ces jeunes au lieu quand le chef de l'État va vraiment s'investir dans ce domaine-là, prendre seulement les gens qui appartiennent à des partis politiques, parce que ça, j'ai décrit. Ici, tout se fait avec les partis politiques. Là, M. Trump m'avait dit qu'ils militent pour avoir le pouvoir, mais d'accord, il n'y a pas que ceux qui militent qui peuvent servir le pays. Il y a des gens qui ne militent pas, mais qui ont étudié, qui peuvent servir le pays. Moi, je voudrais bien qu'on lance un recrutement des agronomes. Et vous allez voir ce que ça va donner d'ici 2-3 ans dans notre pays. Je suis sûr que le Congo lui-même peut nourrir ses habitants, et même les voisins. Et donc, je félicite quand même cette initiative de nous approvisionner à Kinshasa. Et si seulement s'il y aura un suivi sur les marchés, parce que ces produits vont arriver, vous pourrez trouver certains produits entre les maisons des gens. Est-ce que les prix sera contrôlé par le ministère de l'économie? Parce que dire c'est autre chose, faire c'est...
Voilà. La structure qui gère ces produits collectés de provinces jusqu'à Kinshasa avait assuré que les marchés qui sont choisis, les produits pourront coûter, pourront être vendus à un prix abordable pour l'ensemble de la population kinoise. Mais pour vous, ça reste encore une question de la volonté d'augmenter les budgets, de pouvoir soutenir, parce qu'il ne faut pas de décisions conjoncturelles. C'est vrai que c'est lié au coronavirus, mais il faut arriver maintenant aujourd'hui à avoir de décisions structurelles qui puisse permettre à ce que la production locale soit encouragée. On va écouter Mangélan, je crois bien, qui nous appelle de Bukavu, et on revient à notre invité. Mangélan, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour à tous, c'est Mangélan, je suis le militant du mouvement citoyen de l'État, le PP. Merci, M. Pierrot, de me passer la parole. Mm-hmm. J'encourage d'abord l'initiative de notre gouvernement. Mais je dis aussi, M. Perrault, le problème avec le niveau des aliments dans notre pays, en tout cas, je relativise le problème. Le gouvernement congolais n'a pas une bonne politique de gestion du domaine agricole, mais il y a aussi une autre faute aux consommateurs. Alors moi, je veux intervenir plutôt aux consommateurs. Ici chez nous, en tout cas, je prends le temps. Nous sommes aussi chez vous, mais nous produisons dans notre province. Nous ne produisons pas beaucoup. Mais il y a un problème des consommateurs. Le problème des consommateurs ici chez nous, c'est quoi? Par exemple, dans le territoire de Chabunda, à Calais, à Kabar, partout là, ici, on produit des produits. Alors, quand il s'agit de consommer, les consommateurs de Bukavu, par exemple, parce que c'est le grand centre de notre programme, il y a personne qui ne savent pas même les riz qu'on produit plutôt au niveau du Chabunda. Le consommateur veut seulement s'approvisionner avec les riz qui nous viennent donc de qualité de riz qui nous viennent de différents points du monde, par exemple la Tanzanie, le Pakistan. Alors, il y a ceux-là des moments qui ne savent pas même préparer les riz que nous produisons ici chez nous. Le problème aussi, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, mais le problème aussi, c'est le problème des Congolais. Les Congolais aussi doivent s'accaparer d'abord, doivent avoir confiance à eux-mêmes. Ils sont capables aussi de produire et de consommer le produit qui sont en train de
Alors, et ça c'est très important, vous l'avez dit, Magellan, vous l'avez dit, il y a la production locale, vous avez donné l'exemple du riz qui est produit à Chabunda, que ce soit Calais, Kabare, mais la population préfère acheter les riz importés que les riz qui est produit localement, c'est-à-dire qu'il y a cette question de confiance, n'est-ce pas? Et ça ne peut pas permettre aux producteurs locaux de pouvoir s'encourager et revenir encore demain. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine, mais vous pouvez également rejoindre d'autres internautes qui débattent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Paroles aux Auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi De 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir et sur Internet, radiocapi.net.
Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Professeur Fidèle Lumeya, nous revenons à vous. Vous avez suivi les compatriotes, comme nous l'avons dit. Cette décision de la présidence d'acheter de la nourriture, c'est vrai que c'est conjoncturel, bien sûr, avec les déclenchements de l'épidémie, mais on entre en profondeur. Vous avez suivi comment les uns et les autres ont pu s'exprimer. Il y a les problèmes de production déjà qui existent, mais on ne peut pas les évacuer parce qu'il n'y a pas de route. Il y a le problème de la confiance dans les produits locaux. Notre ami de Bukavu, les gens qui préfèrent encore acheter les produits importés. Mais alors, en profondeur maintenant, parce que là, on réfléchit sur l'avenir. Vous avez déjà parlé de ces problèmes des budgets qui fait défaut. Quels doivent être encore d'autres paramètres importants qu'il faut prendre en compte dans cette question de production locale?
Oui, j'ai remercié les amis Gulin, Gaston, Magellan et Christian. Je collabore à leurs commentaires. Mais j'insiste encore, Gulin. Voilà, je vais avec les chiffres parce qu'en tant que chercheur, pour que je commence l'agribusiness, je suis allé chercher où se trouvait l'argent et qu'est-ce qu'on en fait. Il y a une institution financière internationale ici, au pays, qu'on appelle le Fonds international de développement agricole, FIDA.
OK.
FIDA donne au ministère de l'Agriculture chaque deux ans 51 millions de dollars pour l'agriculture, la promotion de l'agriculture. FIDA, Agriculture, ministère de l'Agriculture. Suivez bien la chaîne.
Mm-hmm.
Le ministère de l'Agriculture a un sous-traitant ici qu'on appelle Papakin. Papakin signifie pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. Pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. C'est-à-dire, l'argent quitte au niveau international, vient au niveau national, au ministère de l'Agriculture, et puis le ministère de l'Agriculture sous-traite avec cet organisme local. Papakin. Papakin existe depuis 2012.
Mmh.
Son objectif, c'est ce que vous avez souligné, Pierrot,
oui.
C'est d'approvisionner. Je vais lire leur objectif. Si les auditeurs peuvent mieux suivre, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers résulte de l'accord de financement du gouvernement congolais et le blablabla. Et le Fonds international, signé le 9 novembre. La durée du projet est de 10 ans, répartie en deux phases de 5 ans, dont la seconde est conditionnée à l'atteinte des résultats. C'est mm-hmm. depuis 2012.
Oui.
Ils sont dans le Bandundu, ils sont dans le Bas-Congo. Dans ces deux provinces plus proches, l'objectif, la stratégie est de financer les locaux, les mamans maraîchères et nous tous, pour que nous produisions davantage. Et avec l'argent qu'ils ont reçu et le ministère de l'Agriculture, les 51 millions chaque deux ans, c'est pour aller racheter toute la production locale dont nous parlons aujourd'hui. Et le résultat final, c'est baisser le prix des denrées alimentaires à Kinshasa. Donc, s'ils avaient bien fait le travail, ce que vous avez souligné aujourd'hui, devait être pas une émission pour venir chercher à résoudre le problème. Parce que le problème en 2012 était déjà fixé. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas mm-hmm. dans le Bas-Congo, ça ne marche pas dans le Bandundu. Et pourtant, vous avez la présence d'un organisme qui est là avec de l'argent, avec des bureaux, avec des véhicules, avec des motos pour racheter toute la production. D'abord, ils vous donnent les semences gratuitement, ils nous ont donné des semences, vous produisez et ils ne se présentent pas pour acheter. Jusqu'aujourd'hui, les semences qu'ils nous ont remis traînent encore dans nos... comment on appelle ça? Dans nos maisons,
Les greniers.
Nos greniers.
Oui.
Donc, tout ici, on ne sait pas pourquoi ça traîne. Ils vont racheter nos produits au mois d'août. Alors, ça, ce n'est pas le problème du ministre de l'Agriculture, en partie. Mmh. C'est un problème de cet organisme et son mécanisme et les financiers et les ministères de l'agriculture qui doivent constater ce que vous, vous avez constaté, que les prix sont en train d'augmenter à Kinshasa, et pourtant il y a un organisme dont l'objectif, avec beaucoup d'argent qu'ils ont, était de réduire ces prix. Donc le ministère de l'économie, comme l'a souligné M. Gaston, son travail n'est pas d'aller frapper les gens qui vendent. Son travail, c'est de rencontrer son collègue du ministère de l'Agriculture pour se demander où est partie la production dont vous avez reçu 51 millions de dollars pour réduire le coût. Mmh. Qu'est-ce qui se passe que les coûts montent? C'est que quelque part dans la chaîne, quelqu'un ne fait pas son travail. Mmh. Et il faut les
professeur Fidèle Lumeya, vous avez parlé quand même de 51 millions de dollars chaque deux ans que FIDA donne au ministère de l'Agriculture. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que dans la chaîne, c'est uniquement pour le rachat ou bien ces financements permettent aussi de pouvoir faciliter? Il y a la question des routes et des sectes agricoles, par exemple, qui se pose.
Tout est là. Tout est là. C'est toute la chaîne de production et puis aussi le financer auprès des paysans les routes de dessert agricoles. C'est un produit qui vient régler toute la production, toute la question alimentaire dans la ville de Kinshasa. Et il y en a aussi, il y a un autre organisme pour l'ami comme Magellan, vers Bukavu là-bas, vers le nord, Kivu, le sud, Kivu. C'est dans toute la République que le ministère de l'Agriculture a un organisme avec les mêmes objectifs. On donne des semences, on rachète et on évacue. Donc, si cette histoire pouvait bien marcher, on ne pouvait pas avoir des importations ici. À Bukavu, vous avez le problème avec Côte Tcha. J'ai vécu là-bas, j'ai étudié ces marchés là-bas. Mais cet organisme est venu pour résoudre ces problèmes. Mmh. Maintenant, le problème pour les auditeurs et les auditrices, c'est de faire la plaidoirie, de prendre le téléphone et commencer à investiguer. Que nous tous, comme vous le faites, comme je partage l'information, c'est de demander à Papa Kin, qu'est-ce que vous faites, pourquoi les denrées agricoles augmentent de prix sur les marchés à Kinshasa? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? On doit retrouver cette chaîne d'argent. Elle se trouve où?
Et c'est important.
Il y a un
goulot
d'étranglement.
Voilà.
On doit chercher à trouver pourquoi il y a un goulot d'étranglement.
Voilà.
Donc, il n'y a pas un problème de politique, il n'y a pas un problème de moyens. Les moyens sont là, la politique est là. Quelque part, on doit retrouver l'argent. Et moi, je suggère à ce que cette émission ici va jusqu'à les investigations. Pierrot, vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous ai donné l'information. Mm-hmm. Cherchez à retrouver pourquoi Papa Kin n'achète pas les produits. Ça pourrit.
Et ça, c'est très intéressant. C'est pourquoi même d'ailleurs notre débat d'hier qui a tourné autour du contrôle citoyen, le mécanisme qui permet à ce que la population puisse s'impliquer pour avoir un œil, un regard sur ce qui concerne la population. C'était le débat d'hier. D'ailleurs même aussi où on a pu aussi interpeller les élus pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Et ça, c'est très important qu'on sache pourquoi Papa Kin qui reçoit les fonds pour ça et qu'à Kinshasa les produits augmentent des prix alors que les produits sont bloqués en province. On ne parvient pas à les amener à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, il y a encore Antoine qui nous a rejoint, qui est à Bounia, et Josué Assani à Bukavu. Antoine, merci d'avoir appelé parole aux auditeurs. Bonjour, Antoine.
Bonjour, plutôt Pierre Lamé, je vous me recevez?
Oui, on vous écoute bien. On y va, on vous écoute.
Oui, Pierrot, moi je veux dire ceci. Quelle est la vision politique que nous avons dans notre pays? Parce que tout ce que le professeur vient de dire, c'est bon, le secteur des routes, des sujets de variation, c'est dans la politique. Nous avons quelle politique? C'est ici, j'abonde sur son idée de notre professeur qui dit, il a parlé des structures de sujets de variation. Mais quelle est aussi notre culture? Vous savez, moi, j'insiste surtout sur ça. Nous avons quelle culture? Ma femme, elle est experte en suivi évaluation. Elle est au PNUD. Elle travaille en construction avec la MONUSCO et le SAREC pour la stabilisation ici à Ituri. Mm-hmm. Vous voyez, elle me dit, elle écoute toutes ces émissions. Elle me dit, on les enseigne sur les 6CCM. Ça veut dire la communication pour le changement des comportements. Donc, il faut sensibiliser les gens, il faut sensibiliser la population pour qu'ils puissent changer de mentalité changer de culture, prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Mm-hmm. Parce que dans tout cela, il s'agit de notre culture. Vous voyez, quelqu'un avec qui j'étais avec lui à Goma en 2013-2014, on s'est trouvé devant la MONUSCO pour les postes. Là, je venais de terminer mon contrat avec ACR. Il me dira ceci, moi je ne suis pas quelqu'un que je devrais me retrouver ici devant la MONUSCO en train de chercher du boulot. Moi je dis pourquoi. Il me dit, moi j'étais à Kanyamakasese. Le professeur a parlé de Kanyamakasese.
Oui.
À l'époque des musées. Il a dit, on était très bien, on était bien payé plus que même la MONUSCO. Il était en train de pleurer, vous voyez. Il a parlé des problèmes de Bukangalozo. Le professeur aussi a parlé des problèmes de domaine d'Incélé. Vous voyez, tout cela, vous voyez, qu'est-ce qu'on en a fait avec ça? Donc, il s'agit des problèmes de culture. Hein? Il y a le professeur Simbu Poulou avait parlé avant-hier. Il a dit aujourd'hui, le vol est organisé. Même si on mettra le suivi évaluation. Il nous dit que le vol aujourd'hui est organisé, c'est une chaîne. Vous voyez, c'est une chaîne. Donc, il s'agit ici de mettre, donc de sensibiliser des gens, de les apprendre l'importance du développement et de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons en faire avec notre pays ici? Mm-hmm. Vous voyez, chacun est dans ses coins, chacun cherche ses intérêts personnels. On n'a pas cette culture de la République. En fait, que tout le monde puisse se retrouver. Mmh.
Et ça, c'est très important. Antoine, vous l'avez dit, quand on regarde même les initiatives pour la production agricole, le professeur l'en a parlé, on a parlé de cela, le domaine présidentiel de Lancélé, on a parlé de Bukangalonzo. D'ailleurs, nous avions eu des dizaines d'émissions sur Bukangalonzo, près de 90 millions de dollars investis. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Il y a ces parcs agro-industriel comme c'était initié, autant de problèmes. Et pour vous, tout ça, ça se résume dans une question de culture et de mentalité. Cela veut dire qu'on n'a pas la culture du développement, on n'a pas la culture de travailler pour l'intérêt de tout le monde. Et il faut beaucoup plus travailler sur ça. Merci beaucoup, Antoine Debougna. Josué oui. Assani, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, je suis Joseph Fanny, coordonnateur national du mouvement citoyen Rien pour le peuple.
On vous écoute, oui.
Oui, en fait, la thématique, elle est très importante, d'autant plus que les plus grands ennemis des Congolais, c'est la faim, c'est la famine. Donc, quand on est affamé, à un moment donné, quelque chose qui est amer, on peut penser en tout cas qu'il est doux. Quand on est affamé, le visage peut être renfrogné à tout moment et on va penser que quelqu'un est en train vraiment d'être stressé. C'est-à-dire, c'est une question très importante. Maintenant, je voudrais insister sur la prise de conscience de nos politiciens. Je rappelle les mots ou bien les slogans, les discours de Michel de l'État. Il nous avait dit comme quoi la République démocratique du Congo, bien évidemment avec ses terres arables, elle est à mesure de nourrir toute l'Afrique et la moitié de l'Europe. Donc, nous voulons que les paroles puissent se marier avec les actes. Qu'on cesse vraiment qu'on quitte dans le monde des slogans pour entrer dans la concrétisation. Donc, pour faire de l'agriculture une priorité, je proposerais qu'il y ait vraiment une dissociation, c'est-à-dire qu'on puisse dissocier l'agriculture et faire de l'agriculture un ministère donc autonome, qui est seulement le ministère de l'agriculture. Peut-être cette question serait traitée avec plus d'importance. Le ministre provincial de l'agriculture d'ici chez nous à Bukavu, d'ici qui vous nous avez dit comme quoi on sera vraiment un peuple très heureux, c'est-à-dire à la fin de son mandat, avant la fin de son mandat, chaque syndicivoucien va manger trois fois par jour. Et nous avons vraiment applaudi vraiment ce point de vue, ce discours. Et nous attendons maintenant la concrétisation, nous lui donnons toutes les chances. Le cas contraire, il nous trouvera vraiment dans son chemin. C'est-à-dire, je voudrais qu'on puisse donner la priorité à l'agriculture. Mais je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui pensent qu'il y a les problèmes de la consommation. Non, Pierrot et Lamedi. Je me rappelle ici à Bukavu, nous avons assisté à un moment donné où les sacs de riz venaient en provenance de la province de Maniema
Et en tout cas, c'était vraiment une ambiance qui avait régné ici à Bukavu. Et les riz qui ne sont pas produits localement, c'est-à-dire qu'on appelle Ghana, avaient manqué même le marché. C'était toute une ambiance. Donc l'abondance ne nuit pas. Plus il y a une surabondance de produits agricoles dans les marchés, plus il y aura vraiment les rabais. Donc les consommateurs, eux, n'ont pas de problème. Mais les problèmes résident au niveau de la production locale agricole. Donc,
merci beaucoup, Josué. Merci. Et d'ailleurs, Josué, on se rappellera aussi ces souvenirs du vieux beau temps où on mangeait les riz Bumba qui venaient de la province, de l'ancienne province de l'Équateur, comme vous l'avez dit, que c'était une joie à Bukavu quand les gens mangeaient les riz qui étaient produits à Kindu. Mais vous l'avez dit, il ne faut pas que tout cela reste des slogans, il faut passer à l'action. Mais quant à la dissociation du ministère de l'Agriculture avec Pêche et Élevage, on a déjà connu autant de fourmis, on a eu le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. À un moment, on a pu scinder, le ministère de l'Agriculture est resté seul, Pêche et Élevage, c'est parti aussi de l'autre côté. Mais est-ce que le problème, c'est le fait de pouvoir dissocier ou associer ces trois activités? Mais comme le professeur le disait tout à l'heure, il faut qu'on puisse savoir exactement on va où, qu'est-ce qu'on a fait du programme, qu'est-ce qu'on a fait des moyens qui ont été mis plutôt à ces services-là. Merci beaucoup, Josué. Voilà. David, vous êtes à Bounia. On retourne à Bounia avec vous, David. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. En fait, je suis très content par rapport à cette thématique d'aujourd'hui. Pierrot, je crois les intervenants et l'invité ont pu développer la problématique par rapport à ce sujet. Ils ont évoqué beaucoup de problèmes, mais pour nous ici en Ituri, il y a quelques problèmes qui n'ont pas touché et qui affecte directement ce secteur de production agricole et qui aujourd'hui nous amène la faim, Pierrot. En fait, ici en Ituri, nous avons beaucoup plus, de manière particulière, le problème de sécurité et de débouchés. Vous savez, si par exemple, il y avait une très bonne politique agricole, moi je pense qu'on aurait évité ces conflits de Codeco, cette affaire de Codeco allait disparaître. Comme on n'exploite pas, comme les jeunes ne font rien, c'est comme ça qu'ils se lassent. Bon, j'estime que c'est comme ça qu'ils se lassent dans ces trucs de rébellion, ainsi de suite. Alors, à mon avis, comme piste de solution, Pierrot, il fallait un encadrement de la population. Bien sûr, le prof, l'invité a soulevé le problème de budget, il fallait qu'on inscrive le secteur agricole dans le budget. Bon, avec notre budget de la honte, Pierrot, je crois que c'est un problème. Mais les Congolais, ils sont très forts. Pierrot, la province de l'Ituri en elle seule, si vraiment la population était encadrée, elle pouvait nourrir toute la population de la RDC, on n'aurait pas la faim. Les gens ici sont très forts. Comme il n'y a rien, c'est comme ça, ils se lancent à des aventures inutiles. Mmh.
Voilà. Cela veut dire que les jeunes qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas utilisés, ils sont aujourd'hui recrutés dans les groupes armés. Vous souhaitez d'ailleurs que l'État investisse aussi dans l'encadrement de la jeunesse, et la jeunesse peut être encadrée dans le domaine agricole, et on peut pouvoir les protéger contre les recrutements dans les groupes armés. C'est même l'insécurité aussi qui ne permet pas de pouvoir produire localement. On le voit dans toutes les provinces où l'insécurité a régné, et les conséquences aujourd'hui. On a fait les débats sur la flambée de la malnutrition, ou l'explosion plutôt de la malnutrition dans l'espace Kasaï à cause des conflits, du conflit armé qui n'a pas permis à ce que les gens puissent cultiver. Alors voilà autant de problèmes qui se posent. Alors, parce que vous avez parlé de l'invité David, on revient au professeur Fidèle Lumeya. Et d'ailleurs, quand on a évoqué lors de l'émission de la fois passée sur les budgets, professeur, vous êtes revenu sur les initiatives que l'État devrait prendre. Par exemple, la création de la banque des crédits agricoles. Ça dit que c'est ce qui doit permettre aussi aux gens d'être encouragés, de pouvoir investir dans le domaine de la production locale, mais qui doit aussi être accompagné, par exemple, avec les routes de dessertes agricoles aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, il faut ne pas rester dans le slogan, mais il faut passer à cela d'une manière plus pratique pour permettre à ce que la production locale puisse être encouragée. Mais ça fait quand même longtemps que nous avons organisé les débats autour de cette question des productions locales, mais aussi cette absence des banques, des structures, des coopératives qui peuvent aider aujourd'hui les agriculteurs professeurs.
Aux intervenants. Voilà, d'une manière plus pratique, ce que nous pouvons faire. Nous, de notre côté, avec certains amis, nous sommes en train d'appeler, de parler de la responsabilité citoyenne en face de tout ce que vous avez énuméré comme problème et dont les amis ont aussi énuméré. Pratiquement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons créé ce que nous appelons Projet Mabélé. Projet Mabélé est en train de s'organiser autour de plus de 200 personnes. Nous faisons des contributions de $200. Notre chiffre d'affaires sera $3 millions. Qu'est-ce que nous voulons faire avec $3 millions? C'est de financer ceux d'entre nous qui ont des terres arables pour produire et puis ouvrir toute la chaîne de production, nous-mêmes en tant que Congolais et Congolaises, et puis ouvrir des alimentations et ouvrir une banque alimentaire où nous allons exposer des produits que nos productions locales. Donc, tous les membres qui vont produire auront aussi accès au marché, le marché que nous allons créer nous-mêmes. Mmh. Ainsi, nous allons faire une compétition avec des alimentations comme ShopRite et les autres. Parce qu'au fait, ShopRite est sud-africain. Ceux qui ont été en Sud-Afrique ou bien en Afrique australe le savent que ShopRite, c'est créé par le fermier. Tout ce que vous voyez là-bas, si vous allez à JB, vous allez ici à Bandal, ce sont des fermiers sud-africains qui exportent au Congo leur production. Donc, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas être là seulement en train de subir la loi du plus fort. Nous pouvons aussi devenir plus forts en nous organisant. Ainsi, nous avons créé le projet Mabélé. Nous sommes en train d'accepter les souscriptions avec une cotisation de $200. Si nous sommes à plus de 200, nous pouvons atteindre le montant, le chiffre d'affaires de $3 millions et nous financer nous-mêmes pour la production agricole jusqu'à la vente et aux alimentations. Mmh. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, à se plaindre, à venir passer du temps à identifier le problème. Nous devons être plus proactifs. Et la façon d'être plus proactifs, nous devons nous réorganiser. Ceux qui ont l'argent, avec des petites cotisations, créer quelque chose, créer une structure autre. Les politiciens vont rester politiciens, les structures étatiques vont rester ce qu'elles sont. Nous devons prendre ce que nous appelons une responsabilité citoyenne et créer nos propres alimentations, nos propres fermes et faire nos propres cotisations. Beaucoup d'amis ont essayé, mais ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas se décourager. Aller à la Lune n'a pas pris une année, ça a pris des générations, mais on est arrivé à atterrir sur la Lune. Donc moi, j'encouragerai au cours de cette émission, qui est vraiment, qui appelle à une responsabilité citoyenne, que nous nous levons nous-mêmes, nous sommes un peuple debout, nous avons créé ce pays nous-mêmes, nous pouvons créer une agriculture du type de ShopRite, où les fermiers se rencontrent et cotisent et créent leur propre mécanisme de financement de leurs projets.
Voilà, on va écouter le dernier auditeur, on reviendra à vous pour la conclusion d'un moment à l'autre. Ingénieur Bathieu, vous êtes ici à Kinshasa, merci de nous avoir rejoints, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je dois d'abord saluer tous nos compatriotes du Congo profond. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, moi je ne peux que présenter mes inquiétudes parce que l'initiateur de ce projet, c'est bon, c'est le gouvernement qui devrait plus initier ça. Mais plus ils utilisent les élites du Congo, ce sont des professeurs, les gens, les cadres universitaires qui dirigent tous ces projets. Malheureusement, la population, elle voit que rien du concret, ça se réalise. Et si on peut prendre même le cas de notre ami qui intervient à la Radio Kapi, c'est le professeur, si je ne me trompe pas, le professeur Kalala, qui fut aussi, je pense, un membre de gouvernement qui chapeautait peut-être un projet de développement agricole, des choses comme ça. Mais il nous donnait des propositions lorsqu'il était en dehors de la maison. Il nous donnait des meilleures des propositions, des projets. Mais lorsqu'il est entré à l'intérieur, monsieur le journaliste, nous avons beaucoup regretté. Est-ce que l'intelligence du professeur s'est volatilisée ou comment? Parce que ce sont les mêmes personnes. Dès qu'ils sont en dehors de la cuisine, ils donnent des bonnes propositions. Dès qu'ils entrent, maintenant, tout ça disparaît. Alors, ça nous décourage, messieurs les journalistes. Mmh. Moi, je pense que même si le gouvernement donnait des enveloppes, mais les gens qui dirigent, ce sont des cadres d'université, ce sont des professeurs. Malheureusement, quand ils entrent, ils font autre chose, ce qui n'est pas les professeurs.
Alors, Mathieu, parce que vous avez évoqué le professeur Tshibankalala, on rappelle bien que le gouvernement Bruno Tshibala avait initié le programme volontariste pour le développement du secteur de l'agriculture, avec un investissement en crédit de près de 400 millions de dollars. On avait, par exemple, ciblé le Congo central pour la production du riz, le Kasaï central pour la production du maïs à Salou-Chimba vers le territoire de Luisa. Il y avait aussi la plaine de la Ruzizi pour la production du maïs et la production du riz dans le sud Kivu. On avait reçu d'ailleurs plus de deux fois le professeur Tshibankalala qui avait parlé, et puis il avait promis à la population qu'à partir de ce mois d'avril, la population devait déjà commencer à voir le résultat de cet investissement. On espère qu'on en verra bientôt. Merci, Bathier. On revient à vous, professeur, en une minute ou deux minutes pour conclure cet échange autour de l'encouragement de la production locale. On a suivi les uns et les autres. Quel est le message qu'on peut retenir pour clôturer cet échange?
Oui, merci Pierrot. Un mot tout de suite là pour l'ami qui parle nous ne pouvons pas opposer les élites aux autres ou bien les professeurs. C'est pas parce qu'on est professeur qu'on a fait ce que vous évoquez là-bas. Moi, je me dis, la distribution des financements, je crois que après beaucoup d'années, nous devons apprendre des leçons, surtout dans les domaines agricoles, de ne financer que ceux qui ont prouvé. Je finance mes projets avec de l'argent propre. Je ne vois pas si l'État me donnait un crédit, pourquoi je vais aller détourner l'argent de l'État. Parce que j'ai 100 personnels avec moi, je le paye avec mon argent propre, je suis presque à bout. Je ne vends pas moi-même. Mais c'est pour dire qu'il y a des professeurs qui peuvent faire mieux. Est-ce que les gens qu'on met en place, surtout dans les domaines agricoles, qui est un domaine beaucoup plus pratique, ce n'est pas des domaines où il faut trop de philosophie. Ont-ils leur propre champ? Ont-ils leur propre agribusiness? Parce que ça, c'est différent. C'est là où je crois que si on donne de l'argent à des gens qui ont déjà initié quelque chose qui marche bien, vous ne viendrez que pour augmenter leur capacité d'atteindre les objectifs que l'État vise. Donc, il faut maintenant, Pierrot, pour revenir à l'émission, il faut un partenariat public-privé. Et dans ce partenariat public-privé, il faut que et nous, le privé, et le gouvernement, par exemple le ministère de l'Agriculture, nous asseyons pour identifier qui des privés a quoi, pour que nous, gouvernement, avec par exemple 50 millions que la FIDA donne au ministère de l'Agriculture, qui reçoit cet argent-là. On doit arriver à se poser ces questions-là. On ne doit pas donner de l'argent aux élites, comme l'a dit le frère. On ne doit pas donner l'argent parce que quelqu'un est politicien ou parce qu'il est gradé militaire. On doit financer ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ont quelque chose dans les domaines agricoles. Ils ont un hectare. Moi, je vais commencer avec un hectare parce que un hectare de production de maïs ou bien de soya vous donne 600 kilos. Et quand vous vendez, vous avez de l'argent, vous pouvez créer encore de l'emploi pour d'autres personnes.
Merci.
Donc, il faut mettre des bases. Vous vous dites, nous finançons si vous avez déjà un hectare de terre et vous avez pu montrer que vous pouvez faire quelque chose. Voilà
merci
concrètement
beaucoup.
Comment nous pouvons sortir de cette augmentation des prix sur les marchés.
Merci beaucoup, professeur Fidèle Lumeya. Vous êtes professeur d'université, entrepreneur dans le domaine de l'agribusiness. Merci en tout cas de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à appeler pour intervenir. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais l'émission, c'est aussi sur www.radiocapi.net. Merci à Sylvain Borgueri qui était à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Fatima Poukou. On se retrouve pour d'autres numéros des Paroles aux Auditeurs. À la prochaine. Au revoir.
L'émission Paroles aux Auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.